la deuxième fois que tu fais le générique. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Acropolis. Du coup c'était pas prévu, moi j'étais tranquille en train de danser sur le générique et tout, et là bim. J'espère que ça va, je suis contente de vous retrouver pour la troisième fois cette semaine. Après avoir commenté le discours de Macron mardi soir. C'était très sympa avec Jean, on l'a commenté à deux, ça a été long, c'était long. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, l'inside d'hier où je suis arrivée en plein milieu, etc. Super. Et donc ce soir, émission qui était prévue sur le Brexit, évidemment. Quoi, rhume? J'ai encore la voix de quelqu'un qui est enrhumé? Mon rhume n'est pas encore totalement fini. Pour ceux qui ont suivi, ça fait une semaine que je suis un peu malade, voire un peu plus. Donc voilà. Bref, donc aujourd'hui, ouais, on va parler du Brexit parce que la dernière fois qu'on en a fait une, c'était avant les vacances d'Acropolis. Donc ça date et cet été, il s'est passé quand même quelques petits trucs sur le Brexit. Hein. Il y a les négos qui ont continué malgré les vacances. Donc ils ont négocié un peu cet été. Donc on va faire un petit point là-dessus, et en fait, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la conférence de presse qu'il y a eu sur le Brexit et les négociations, pareil que la dernière fois qu'on avait fait, avec Michel Barnier et David Davis, qui est le ministre chargé du Brexit pour le Royaume-Uni, et avec après une séance de questions-réponses avec des journalistes qui sont sur place. Voilà, en gros ce qu'on va faire. Vive les raids UPR sur tes vidéos, tu te sens aimée, Jen. Ah oui, je suis ravie des raids UPR, ça me fait beaucoup rire. Donc moi je suis ravie parce que du coup je les titille bien, ça les emmerde et donc moi, bah, moi ça me comble. Voilà, donc bonjour à vous l'UPR, j'espère que vous allez bien. Et continuez à faire des raids sur mes vidéos si ça vous amuse. Ce n'est pas un souci, je suis toujours ravie d'écouter la vérité absolue d'Asselineau. Voilà. Ensuite... Donc bref, bonjour Fanny, bonjour Julie, bonjour Che, salut Néné, salut Théo, salut Grand Froid, salut Dejin, ça me fait bien plaisir de vous voir. On va être en petit comité je pense ce soir, parce que qui dit vendredi soir dit les gens qui ont une vie sociale en règle générale. Et donc nous, tous ensemble, nous faisons notre vie sociale à Acropolis. Donc voilà, donc c'est l'amour, je suis contente de... Faut que je suis contente de vous avoir avec moi. Je me sens moins seule. Bref, sinon, autre chose, je suis extrêmement fatiguée parce que j'ai eu une semaine un peu chargée. Donc, comme qui dirait, j'ai pas eu trop le temps de préparer l'émission. C'est une confidence entre vous et moi. Donc ça va être un petit peu YOLO, comme qui dirait. Mais voilà, donc déjà, si vous avez des questions sur le Brexit... N'hésitez pas à les balancer dans le chat, on peut y répondre, mais on va commencer... alors je sais pas ce que vous préférez, est-ce que vous préférez qu'on fasse un petit topo de ce qui s'est passé cet été? Et ensuite, on regarde ensemble la conférence de presse qui a eu lieu hier. Ou alors, est-ce que on commente directement et on parle un peu et on fait un peu le point de ce qui a été fait pendant l'été? Voilà. C'est à vous de me dire, je vais pas faire de stropole pour ça, mais de toute façon on n'est pas assez nombreux, donc voilà. Un petit récap, je suis chaud, dites-moi, pareil. C'est quoi la différence entre le Brexit et le Brexel? Pourquoi j'ai lu cette question? Je suis un peu déçue. Donc ouais, sinon, le Brexit c'est bon, le Brexit, ça peut être cool, mais pas pour tout le monde en fait. Ok, donc je sens que le monde est chaud pour un petit récap, je sais plus où est-ce qu'on s'en était arrêté, en tout cas on s'en était arrêté à un petit début, la dernière chose qu'on avait regardé c'était une conférence de presse entre Barnier et David Davis, pareil à la Commission européenne dans la salle de presse, on avait regardé ça ensemble. Ils s'étaient dit quoi? Pas grand chose, c'était le tout début des négociations. Donc ils ont commencé un peu à placer les bases et à décider de ce qui seraient les priorités à négocier. Donc voilà, donc la négociation, comment va-t-elle se passer? Comment se passe-t-elle depuis qu'elles ont débuté? L'Union européenne et les États membres insistent pour que la première chose qui soit négociée, c'est les modalités de sortie. Et qu'après, une fois que les modalités de sortie seront toutes réglées, on passera à la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Problème, c'est que le Royaume-Uni ne voit pas du tout les choses comme ça, et souhaite négocier en même temps les relations, enfin les modalités de sortie et les relations futures. Donc là déjà il y a un gros blocage entre les deux parties sur cet aspect-là. Sauf que le Royaume-Uni essaye d'attirer les États membres dans son sens, essaye de créer de la division entre les États membres et donc essaye de discuter avec un État d'un côté, etc. Sauf que ça ne marche pas. Les États membres, donc les 27, ont vraiment décidé de rester et de faire bloc ensemble sur cette question. Donc il est clair et net que on négociera d'abord les modalités de sortie et ensuite on négociera les relations futures. Sur les modalités de sortie, l'Union européenne a établi des priorités et parmi elles, on trouve la première grosse priorité, c'est le sort des citoyens, qu'ils soient des ressortissants du Royaume-Uni vivant dans l'Union européenne ou des ressortissants européens pardon, vivant dans le Royaume-Uni. Voilà, c'est la question première que l'Union européenne veut régler, c'est le sort de de ces personnes. Savoir si est-ce qu'ils vont pouvoir rester dans les pays dans lesquels ils habitent, est-ce qu'ils vont devoir partir, sous quelles modalités pourront-ils rester? C'est toutes ces questions qui sont posées et pour l'instant les réponses sont pas satisfaisantes selon l'Union européenne. Et le Royaume-Uni joue un peu encore et toujours sur cet angle, on veut négocier en même temps les relations futures, donc ils peuvent parfois donner l'impression qu'ils s'intéressent pas plus que ça à la question des citoyens. Mais récemment, ils ont commencé à vraiment s'y intéresser plus et en tout cas à être plus à l'écoute sur l'Union européenne et à vraiment discuter de ces sujets. Donc ça, c'est le premier point. Un des autres aspects, c'est évidemment l'argent que doit ou pas. C'est la question le Royaume-Uni à l'Union européenne. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, le Royaume-Uni s'est engagé sur des programmes pluriannuels dans des budgets précédents, c'est-à-dire des programmes pluriannuels, c'est des programmes qui vont durer par exemple de 2017 à 2020, ou alors de 2014 à 2020. Il y a souvent des programmes comme ça qui durent là, il y en a pas mal qui sont de 2014 à 2020. Je pense par exemple aux fonds structurels, qui sont des sommes d'argent reversées pour les régions pour rééquilibrer les régions pour qu'elles soient à un niveau similaire, par exemple entre je sais pas, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. On sait qu'il y a des gros écarts et donc les fonds structurels sont là pour calmer ces écarts. Bref, en gros, et donc je ne sais plus ce que je disais. Ah, si, il y a du coup l'Union européenne demande à ce que le Royaume-Uni fasse son solde de tout compte et estime que le Royaume-Uni doit 60 milliards d'euros et le Royaume-Uni, lui, ne veut pas donner ces sommes. On s'en serait douté. Voilà, donc il y en a qui estiment que ces sommes demandées, c'est une sorte de sanction imposée par l'Union européenne. D'autres estiment que c'est un dû parce que parce que le Royaume-Uni s'est engagé et qu'une fois que tu es engagé, bah, tu peux plus vraiment te sortir de ça. Donc c'est une question qui se pose. Autre priorité, la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Vous le savez, il y a eu des gros conflits sur cette frontière qui a débouché par la suite aux accords de Belfast en 1998. Et donc, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette frontière en sachant que les tensions, même si elles se sont beaucoup calmées depuis les accords de Belfast, ne sont pas forcément encore toutes éteintes. Et donc, il y a des gens qui estiment que le Brexit pourra raviver ces tensions qui ont quand même fait plusieurs morts. Je crois qu'il y a eu 3 000 morts en tout. Je ne suis pas sûre de mon chiffre. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de morts. Et donc, il y a des gens qui estiment que c'est pas la question la plus importante. Mais bref, voilà, ça c'est une des priorités. En gros. Voilà, donc ça c'est le premier round de négociations qui doit régler ces questions-là. Et donc, ben, c'est un peu compliqué. Ces dernières semaines, le Royaume-Uni est resté très flou sur ses positions, tandis que l'Union européenne est restée plutôt claire sur les siennes. En fait, si vous voulez, c'est que l'Union européenne attend des propositions du Royaume-Uni, estimant que le Royaume-Uni est responsable de son choix et qu'il doit du coup avancer des propositions et trouver des solutions à certains problèmes, notamment la question de la frontière et des citoyens. Des ressortissants et elle estime que le Royaume-Uni ne joue pas le jeu et reste dans le flou total. Michel Barnier a plusieurs fois communiqué là-dessus en disant qu'il était OK pour négocier, pas de souci, mais qu'il attend vraiment des positions claires du Royaume-Uni, positions qui mettent du temps à arriver. Voilà, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Cet été, oui, il y a eu aussi un truc assez intéressant. Il y a eu un sondage qui est sorti cet été où, en fait, 25% des personnes qui ont voté en faveur du Brexit estimeraient avoir été trompées par les pro-Brexit pendant la campagne. Et donc, sans forcément regretter le choix, en tout cas, elles estiment qu'elles ont été un peu trompées. Mais par contre, ces personnes ne veulent pas que le Brexit soit annulé. Je tiens à préciser. Voilà, il y a aussi les questions de la Cour de justice de l'Union européenne. Le Royaume-Uni a envie d'être détaché de cette Cour de justice, ne veut plus être soumis à ses décisions, et donc essaye vraiment d'écarter cette Cour, ce que l'Union européenne ne veut pas trop. Voilà. En gros, on est vraiment sur un truc où ils sont quasiment jamais d'accord sur rien. Donc c'est embêtant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je regarde. Non, tout l'été ça a été ça en fait. Ça a été ouais, s'il vous plaît, l'Union européenne, soyez un peu plus souple avec nous, le Royaume-Uni, et puis l'Union européenne qui dit bon bah c'est quand vous nous donnez vos positions, ça commence à être. Ça commence à être un peu relou. Combien de personnes s'estiment avoir été trompées? Alors, est-ce qu'on sait combien de personnes s'estiment avoir été trompées? Déline, c'est difficile à dire. Là, sur le sondage, c'était 25% des personnes qui ont voté pour le Brexit. Après, on sait ce que c'est que les sondages, toujours à prendre avec des pincettes, etc., etc., en termes d'interprétation, etc. Moi, je ne sais pas non plus comment sont faits les sondages au Royaume-Uni, si c'est le même système que aux États-Unis ou aussi que le même système français. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai le sondage avec moi pour vous l'envoyer pour que vous puissiez l'interpréter. Je regarde ça. Ah ouais, je l'ai. Hop. Tenez. Tac. Et voilà, ça c'est le sondage. Ensuite, il y avait des questions. Le Royaume-Uni doit rembourser une partie de la dette européenne. Alors non, c'est pas une question de dette, c'est une question de s'être engagé sur des programmes et donc sur le budget européen. Et donc c'est de solder ses comptes. Voilà. On estime que. Enfin, l'Union européenne estime que le Royaume-Uni s'est engagé sur une période à contribuer au budget de l'Union européenne ou sur certains programmes. Et donc l'Union européenne demande que le Royaume-Uni solde tout ça avant de partir. C'est tout. Il n'y a pas de question de dette ou quoi que ce soit. Ensuite, est-ce qu'il y avait une autre question? Est-ce que le Brexit peut changer les rapports du Royaume-Uni avec donc l'agence spatiale européenne ou Airbus. Alors, c'est possible. Moi, je ne suis pas spécialiste de la question de l'aérien et du spatial. Mais bon, franchement, je ne pourrais pas te répondre dans les détails. Mais en tout cas, tout est possible. On va dire ça clairement. À un moment, tout est possible. Donc, c'est très très flou la situation sur l'après. Ensuite, est-ce que j'ai vu une question. Est-ce que il serait même infiniment possible que le Royaume-Uni débrexite? Alors, débrexité, donc du coup, décider de rester quand même dans l'Union européenne malgré le déclenchement de l'article 50? Eh bien, oui et non, on va dire. En fait, si vous voulez, pour le faire, il faudrait déjà que le Royaume-Uni le dise clairement. Donc, soit le gouvernement le dit clairement, mais prend le risque de ne pas suivre une décision prise par le peuple, par référendum, ce qui est démocratiquement, ce qui peut poser problème de manière démocratique. Donc le gouvernement n'a pas envie d'aller vers cette voie-là. La possibilité qui, enfin les choses qui pourraient permettre l'option de rester au final dans l'Union européenne, ce serait de nouvelles élections où là, un parti qui revendique le fait de rester dans l'Union européenne soit majoritairement élu, ou alors un nouveau référendum. Sauf que ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. En fait, là, le Royaume-Uni n'est pas sorti de l'Union européenne, a simplement enclenché son désir de sortie et des négociations à partir, enfin, normalement, des négociations, on peut les stopper. Et en tout cas, rien dans les traités interdise un État de continuer absolument les négociations de sortie s'il a envie d'arrêter. Il n'y a rien sur ce sujet, donc d'un point de vue juridique, il est normalement possible que le Royaume-Uni arrête les négociations et finalement reste dans l'Union européenne. Sauf que s'il le fait, eh ben, il prend le risque d'aggraver sa situation dans l'Union européenne avec des États membres qui politiquement n'auront plus confiance en cet État. c'est quand même un truc important, et donc le Royaume-Uni risquerait d'être très isolé dans l'Union européenne. Et ensuite, voilà, c'est vraiment aller à l'encontre d'un vote populaire sur un sujet extrêmement important. Après, s'il y a un autre référendum qui est organisé et que là, le peuple décide, mais en tout cas, les Britanniques n'ont pas envie de revenir sur leur décision pour l'instant. Donc, aller sur la fin des négociations, c'est très peu probable. Là, ils se sont lancés et je pense pas que le Royaume-Uni ira à l'encontre, enfin, stoppera ça. Et je pense pas que l'Union européenne ait envie que ces négociations soient stoppées. Alors, est-ce que le Brexit peut foutre la merde dans le conglomérat européen, genre Ariane Espace ou Airbus ou le tunnel sous la Manche? Eh bien, bonne question, Fanny, question auxquelles je n'ai pas la réponse, et je pense que peu de gens ont la réponse actuellement, puisqu'on ne sait pas quelles seront on n'a pas encore les négociations sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, pour l'instant, c'est très compliqué. Mais il faut l'unanimité des 27 pour que le Royaume-Uni reste. De quoi tu parles, Gultix, de si jamais il y a Brexit ou pendant les négos? Faudrait que je revoie l'article 50, mais il me semble pas que. J'ai la flemme de sortir mon article 50. Donc je te laisse me réexpliquer ça, Gultix. Ensuite, ah oui, et là du coup, bah, de toute façon on va le voir, mais en tout cas, Barnier estime que ça commence à avancer un petit peu sur les négos. Et autre chose que j'ai vu une question, est-ce que le Royaume-Uni sera bien sorti du coup le 30 mars 2019? Eh bien oui. Pendant la semaine des ambassadeurs, qui avait été notamment commentée sur Acropolis, il y avait une table ronde sur le Brexit. Et la question avait été posée aux intervenants de savoir si est-ce que les États membres pourraient accepter le fait de prolonger les négociations avec le Royaume-Uni au-delà du 30 mars 2019 si pas d'accord. La réponse a été non, puisqu'il y a des élections européennes qui sont en juin 2019 et qu'il est du coup un peu hors de question que le Royaume-Uni présente des députés européens en sachant qu'ils vont sortir et donc les États membres de l'Union européenne ne veulent pas que le Royaume-Uni soit encore dans l'Union européenne pour les élections 2019 parce qu'ils ne veulent pas de députés britanniques dans le Parlement européen. Voilà. Donc très clairement, accord ou pas accord, Brexit le 30 mars 2019. Là, il a été question de mettre en place une période transitoire. Au début, le Royaume-Uni ne voulait pas de cette période transitoire, mais commence à accepter l'idée en se rendant compte que les entreprises britanniques risquent de se retrouver dans une période très instable, et donc une période transitoire permettrait à ces entreprises de s'adapter au fait qu'elles ne sont plus dans l'Union européenne et donc dans le marché unique. Donc voilà. Donc plus de Royaume-Uni. En 2019, 30 mars 2019, plus de Royaume-Uni. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'avait dit Theresa May? Ah oui, Theresa May avait dit, je préfère, il vaut mieux partir sans accord qu'avec un mauvais accord. Sauf que sans accord, c'est assez chaud quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, mais il faut que l'unanimité des 27, il faut, oui, car l'article 50 ne prévoit pas un changement d'avis, donc ce serait des négociations ad vitam avec un vote tous les 2 ans pour les prolonger et ce vote serait à l'unanimité. Oui, des 27 plus Royaume-Uni. Si, négociations prolongées, effectivement. Mais par contre, là, si le Royaume-Uni décide d'arrêter les négociations, eh bien, il n'y a rien dans les traités qui indique qu'il n'a pas le droit d'arrêter les négociations et du fait de revenir sur sa décision de sortir. Donc, il y a moyen il pourrait juridiquement y avoir moyen que le Royaume-Uni décide d'arrêter et qu'il reste dans l'Union européenne. Voilà. Ensuite, si pas d'accord, pas d'avantage, c'est les règles de l'OMC. Oui, effectivement. Ok, bon, voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas, de toute façon, on va se mettre le flux vidéo. Je vais y arriver. Désolée, je suis extrêmement fatiguée. Donc voilà, donc je vous ai dit les priorités, etc. Vous allez beaucoup entendre parler, je pense, dans la vidéo de l'Irlande des citoyens et des sous. Ah oui, aussi à noter que Theresa May a fait un discours vendredi 22 septembre à Florence, en Italie, où elle a... C'était assez lunaire son discours d'ailleurs. Elle était vraiment... Enfin bon. Enfin, ils sont un peu dans... Enfin, je sais pas, des fois quand j'écoute le Royaume-Uni, je me dis, mais... Je me dis, c'est un peu triste. Par exemple, pendant cette conférence de presse-discours qu'elle a fait, le petit slogan qu'il y avait sur son pupitre, c'était... Qu'est-ce que c'était déjà? C'était histoire partagée, défi partagé et futur partagé. Et là, je me suis dit, mais en fait, oui, mais si ça c'est l'Union européenne en fait. J'étais un peu surprise. Bref, voilà. Donc, je vous propose de vous mettre un jingle et puis on se met le petit Michel Barnier et David Davis. À tout de suite.
Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. L'Europe, l'Europe, l'Europe.
Et voilà, donc re-bienvenue sur Acropolis. C'est toujours l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et vous voyez, nous sommes à la Commission européenne. C'était hier, je le précise. Et donc, c'est la
Good
salle de
afternoon.
presse
Welcome back to the
de
Commission.
la
Bonjour,
Commission.
bonjour dans la salle de presse de la Commission européenne. Bienvenue à cette conférence de presse
Et donc sur la
qui,
gauche,
comme d'habitude,
le chat qui cache un petit
clôt
peu David
un
Davis,
cycle de
mais c'est pas grave,
négociations. Nous avons
ça va
un
changer.
quatrième cycle de négociations. Nous avons le négociateur en chef Michel Barnier. Nous avons le secrétaire d'État pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, David Davis. Et je lui donne tout de suite la parole, Monsieur le
C'est fou,
secrétaire
le
d'État. Je
mec,
vous en
enfin,
prie.
la traductrice a fait mon boulot.
Bonjour, mesdames et messieurs. Michel, il n'y a aucun doute. Nous avons eu là un cycle de négociations tout à fait vital, crucial,
Tu m'étonnes.
quelques jours à peine après une intervention primordiale de la Première ministre britannique. Le discours de Theresa
Discours
May à
qui date du
Florence
22
avait
septembre.
en son cœur le désir de pouvoir avancer cette semaine. Il a été conçu pour changer la dynamique et pour lancer une réelle
Voilà, ça
impulsion.
c'est vrai,
Il
Theresa
a
May, elle a fait
établi
ce
une
discours pour
approche
vraiment
claire,
relancer les
pragmatique, de
négociations qui
façon à
étaient
trouver
vraiment
un
un peu à
accord qui
plat.
fonctionne pour tout le monde. C'est un discours qui s'est fondé sur un travail considérable au sein du gouvernement ces derniers mois. Nous avons publié 14 documents établissant nos prises de position et
Prises de
notre
position qui sont
vision
estimées
pour
très floues de la part
l'avenir
de
de
la
notre
Commission.
relation avec deux livres blancs tout à fait cruciaux. Mais mon équipe de négociation est arrivée à Bruxelles cette semaine avec tous les détails qui sous-tendent cette
En
vision
termes
exposée par la
d'organisation,
Première ministre. Et
les
il est évident
négociations ont lieu
que
pendant une
certains
semaine,
points de
une fois par
détail
mois.
devront encore être déterminés, mais nous avons eu un
Elles ont
esprit très
commencé au mois de
constructif
juin,
du
il me
côté de
semble.
la table, ce qui nous a
Donc,
permis
juin,
de
juillet,
faire
août.
des
Et là,
progrès
c'est le
très importants.
quatrième mois de
Nous
négociation.
avons quatre grandes questions liées à notre séparation et je dois dire que sur tous les points, nous avons beaucoup avancé sur des points qui sont importants pour garantir une certaine certitude pour nos citoyens et nos entreprises, pour rassurer nos partenaires sur nos obligations financières mutuelles et pour aussi avancer sur des points relatifs à l'Irlande et l'Irlande du Nord.
Voilà, tous les sujets dont
Je
je
n'ai
vous
pas
avais
fait
parlé
secret
en
du
introduction.
fait que je veux venir, car c'est important pour nos citoyens, nos entreprises, aussi bien dans l'Union européenne et le Royaume-Uni. Dans le discours de la Première ministre, nous avons des éléments clés, notamment la nécessité d'une phase de transition qui sera claire et à la fois limitée dans le temps. Une phase de transition qui permettra aux entreprises et aux citoyens de se préparer aux modifications à venir. Normalement, nous devrions pouvoir nous mettre d'accord assez rapidement dès que Michel disposera d'un mandat pour ce faire. Comme la Première ministre l'a dit la semaine dernière, notre avenir commun ne pourra se fonder que sur un partenariat, sur notre amitié commune et plus important encore, sur une confiance commune. Et c'est
Bah oui,
précisément
la
sur
confiance, elle est au
cela
beau
qu'ont
fixe,
porté
là.
nos discussions cette semaine. Et j'en viens donc aux détails. Sur les droits des citoyens, nous avons vraiment avancé sur des questions qui permettront aux citoyens des deux côtés de continuer à vivre comme ils le font aujourd'hui dans l'ensemble. Nous avons aujourd'hui publié un tableau qui montre que sur de très nombreux points, nous sommes d'accord. Et je suis ravie donc de pouvoir dire que sur la sécurité sociale, nous avons pu avancer grâce aux progrès que je mentionnais déjà la dernière fois. Le Royaume-Uni considère que dans certains cas, nous devrions aller au-delà de ce qu'exige le droit de l'Union européenne pour l'instant, pour garantir les droits de nos citoyens. Par exemple, nous avons offert à notre partenaire un droit de retour garanti en échange d'un droit de circulation pour les ressortissants britanniques qui aujourd'hui résident dans l'Union européenne.
Et donc ils veulent un droit de circulation.
Il faudra qu'il y ait les consultations internes à l'Union européenne pour que l'on puisse avancer sur cette question. Okay. Je suis conscient du fait qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de points, il y a encore des écarts. Par exemple, la garantie des droits après leur retrait. Le Royaume-Uni est très clair, nous serons pays tiers hors de l'Union européenne, ça, c'est... et pour nous cela veut dire que nous ne pourrons pas être contraints par la Cour européenne de justice. Ceci
étant point important, le Royaume-Uni veut absolument se défaire de la Cour de justice.
Le Royaume-Uni est engagé à incorporer l'accord final de retrait dans le droit britannique, ce qui garantira un effet direct. Nous reconnaissons également la nécessité de garantir une interprétation cohérente du droit de l'Union européenne et ses différents concepts. Nous sommes d'accord sur le fait que les mécanismes devront encore être définis, mais les discussions en tout cas ont été très fructueuses sur ces points. Et nous avons également rassuré notre partenaire sur la garantie que nous pourrons apporter quant au respect des droits des citoyens européens après notre retrait. Et nous avons notamment un document sur la résidence permanente, et nous sommes d'accord sur le fait que les citoyens européens ne devront pas passer par tout un processus pour l'accueillir. Voilà, donc nous sommes d'accord sur le résultat, il reste à définir exactement comment. Mais tout ceci visait à garantir clarté, certitude, garantie pour les citoyens européens résidant dans l'Union, au Royaume-Uni et pour les citoyens britanniques résidant dans l'Union européenne. C'est une vision pragmatique pour venir en réponse aux préoccupations exprimées par nos citoyens. Nous devons continuer à travailler pour le garantir et pour avancer pour les citoyens de nos deux blocs. Dans son discours, la Première ministre a rassuré nos partenaires aussi sur le fait que personne ne devrait payer plus ou recevoir moins dans le cadre budgétaire actuel du fait de la décision du Royaume-Uni de se retirer. Nous avons expliqué notre position en détail à la Commission et nous avons également, ou la Première ministre plutôt a également indiqué très clairement que nous allions honorer nos engagements. Nous ne sommes pas encore en mesure de rentrer dans le détail précis de ce que sont ces engagements. Ceci étant dit, nos équipes ont eu des discussions extrêmement fructueuses et constructives sur des points de détail liés à ces engagements, travail préparatoire nécessaire pour que l'on puisse parvenir à un accord politique
avancer,
le
Royaume-Uni semble prêt à régler ses engagements financiers
sur l'Irlande du Nord. Nous avons eu une discussion constructive et nous avons progressé sur certains points. Les deux côtés de la table reconnaissent le caractère unique et la situation unique et les circonstances spéciales de l'Irlande du Nord qui devront être dûment prises en compte pour trouver les solutions nécessaires. Nous nous félicitons des principes directeurs que l'on trouve dans le document de position de la Commission de l'Union européenne et nous allons pouvoir nous appuyer sur ces piliers. Nous allons de notre côté élaborer les principes et rédiger des principes sur la zone de voyage commun. Nous sommes d'accord aussi que les droits de citoyenneté qui sont garantis aux personnes vivant en Irlande du Nord par l'accord du Vendredi Saint doivent être maintenus et nous allons essayer de codifier tout cela. Lors du cycle d'août, nous nous étions mis d'accord sur le fait que ce pilier de l'Irlande du Nord devait avancer et avancer. C'est une question complexe, mais nous sommes déterminés de part et d'autre à trouver des solutions créatives. Nous le devons à tous ceux qui habitent en Irlande du Nord et de fait sur l'ensemble de l'île de l'Irlande. Nous sommes déterminés à avancer sur toutes ces questions qui sont liées à notre séparation, questions qui doivent être résolues avant notre retrait. Je suis très encouragée par les progrès que nous avons pu réaliser, par exemple, sur Euratom. Nous avons maintenir
un traité qui date de 57.
Normes que ce que nous avons aujourd'hui avec notre régulateur pour garantir vers la sécurité nucléaire. Nous sommes prêts ou proches d'un accord sur la plupart des points qui sont évoqués dans notre document de position sur cette question. Nous voulons travailler de façon aussi étroite que possible avec Euratom à l'avenir, et la meilleure façon de le faire, c'est de pouvoir avancer sur la question de notre partenariat futur, sur les procédures, les privilèges et immunités, la question de la confidentialité, les engagements en cours. Nous avons eu une discussion technique et parfois nous avons été en mesure de trouver un accord. Au début de la semaine, j'ai indiqué que le Royaume-Uni est déterminé à honorer ses engagements auprès de notre partenaire européen. Notre détermination n'est pas en doute, et ceci dans le cadre de notre retrait des institutions européennes. Et comme je l'ai dit dès le départ, ce cycle de négociations a été crucial. Nous avons pu capitaliser sur l'impulsion lancée par la Première ministre lors de son allocution à Florence. Il y a des progrès substantiels qui ont été réalisés. Il y a des points sur lesquels on aura besoin de discuter plus encore et de faire preuve de pragmatisme pour arriver à un résultat final. Il est vrai qu'il peut y avoir des divergences ou des écarts sur certains points, mais je suis certain que nous allons réussir à combler ces écarts. Il est évident que c'est un processus de retrait qui est éminemment complexe, mais il est dans l'intérêt de tous de faire de ces négociations un succès. Nous ne devons jamais perdre cela de vue. Le Royaume-Uni veut être le meilleur allié et partenaire de l'Union européenne. Nous voulons pouvoir grandir côte à côte je suis assez optimiste en quittant Bruxelles et j'ai hâte de pouvoir poursuivre.
C'est beau. Et j'ai hâte de pouvoir poursuivre ces négociations avec Michel Barnier, patati patata. La commission a bloqué, enfin a coupé avant, genre pas de respect pour David Davis. On le coupe. Voilà, donc c'était... Alors oui, pour vous expliquer, les vidéos sont coupées par intervention. Donc là, c'était l'intervention de David Davis. Donc on est dans une conférence de presse, donc ça va très vite. Donc la première partie, on va faire un petit point sur ce qui a été dit. Je vais répondre à des questions. Et ensuite, on va écouter la réponse et l'exposé de Michel Barnier. Hop, on va faire un petit point aussi sur ce que Michel Barnier aura dit. Et ensuite, on va passer aux questions-réponses des journalistes, parce que ça, c'est souvent très intéressant. Donc voilà, donc on a David Davis qui nous a fait un petit point sur comment le Royaume-Uni perçoit ces négociations. Il estime qu'il y a eu pas mal d'avancées qui ont été faites. C'est vrai qu'il y a eu quelques avancées là, récemment, mais comme l'a dit Donald Tusk le 27 septembre, les progrès ne sont pas suffisants. Donc, deux poids, deux mesures, le Royaume-Uni a l'air d'être plutôt content, et puis l'Union européenne, pas encore trop. Mais bon, ça va se faire, ils vont y arriver. Donc qu'est-ce qui a été dit alors sur les ressortissants, c'est assez intéressant. J'ai l'impression que le Royaume-Uni, du coup, voudrait que les ressortissants britanniques qui sont dans l'Union européenne aient la libre circulation dans l'Union européenne. Donc ça, c'est un point intéressant. Et autre chose, ils essayent de rassurer l'Union européenne et les ressortissants européens pour faciliter leur possibilité de rester sur le territoire britannique malgré le Brexit. À voir dans quelle forme et jusqu'à quel point. Là, il n'a pas été trop dans le détail. Mais en tout cas, ce point-là. Sur l'Irlande, il estime que ça avance, que la situation est effectivement quelque chose de complexe et de sensible, mais il a l'air d'être content. Ça avance, selon lui. Hein. Pareil, sur les engagements financiers. Alors ça, c'est intéressant, parce que le Royaume-Uni freinait vraiment des deux pieds pour pouvoir sur cette question de régler, de filer de la thune à l'Union européenne pour sa sortie. Mais là, il y a un peu une évolution. Le Royaume-Uni semblerait être prêt à solder ses engagements, mais alors là, David Davis n'a pas précisé lesquels, n'a pas précisé si ce serait la totalité, et n'a donné aucun chiffre, alors que l'Union européenne, de son côté, indique que c'est 60 milliards environ. Mais ils ne sont déjà pas dans Schengen, ça n'a aucun sens. Effectivement, c'est ça qui paraît bizarre, mais je pense que, j'avoue que je ne sais pas s'ils parlent de libre circulation au sens de Schengen ou s'ils parlent de libre circulation au sens de la libre circulation des travailleurs. C'est pas très net. J'avoue que moi, j'ai pas vraiment compris sur quel plan ils se positionnaient là-dessus. Donc, à voir ce que ça veut dire. À la limite, je lirai un peu les papiers de position du Royaume-Uni pour en savoir un peu plus. Sur la CJUE, vous l'avez vu, je vous en avais parlé, la Cour de justice de l'Union européenne qui règle les litiges sur le droit européen et qui est un peu la cour au suprême sur les questions européennes, c'est elle qui veille à la bonne application des traités. Le Royaume-Uni n'aime pas trop cette cour et veut s'en débarrasser et ne veut absolument pas que la Cour de justice soit compétente pour régler les litiges qu'il pourrait y avoir entre le Royaume-Uni et la Commission, les institutions, les États membres, etc. Pendant la période transitoire, par exemple, elle ne veut plus du tout être soumise à cette Cour de justice. Et là, l'Union européenne n'est pas hyper chaud. Et le Royaume-Uni avait même proposé à créer une autre cour qui serait spécialement dédiée à régler les conflits autour du Brexit. Donc pour vous dire à quel point ils ne veulent pas entendre parler de la Cour de justice de l'Union européenne, ça c'est vraiment leur non, leur ligne rouge. Voilà à peu près, je voulais vous faire un point sur la situation interne au Royaume-Uni parce que ça peut être intéressant. Oh merci Michel, un don de 5€, Michel Forever Tonight, mais Michel Barnier qui me fait un don, ne serait-ce pas Théo qui est derrière ce petit don. En tout cas merci beaucoup pour ce don, ça me fait très plaisir. Donc je reviens vite sur la situation du Royaume-Uni. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des élections anticipées en juin dernier, je crois, et que Theresa May, même si elle a eu la majorité, elle a perdu la majorité absolue et elle a maintenant une majorité relative au Parlement, enfin en tout cas à la Chambre des représentants. Donc là, c'est bof. Et il faut savoir aussi que Theresa May est assez remise en question et remise en cause au sein de son propre parti. Et que, en fait, beaucoup de conservateurs estiment qu'elle est là parce qu'ils ont trouvé personne d'autre. Notez que Boris Johnson, par exemple, le blond, là, vous savez que... Le Boris Johnson, quoi. Qui ressemble un peu à un Trump, comme ça. Physiquement. Et peut-être même pas que physiquement. Bref. Lui ne voulait pas prendre la place de Theresa May, donc ils ont pris Theresa May parce que, en gros, ça a été la seule qui a bien voulu gérer la situation et qu'elle est un peu remise en question au sein de son propre parti, donc elle n'a pas énormément de soutien, donc c'est assez compliqué pour elle. Même au sein dans son gouvernement, elle est un petit peu parfois secouée, etc. Donc c'est très compliqué, en plus en interne. Et donc, Boris Johnson, en plus, lui, essaye de mettre un peu la pression, parce qu'il a menacé à plusieurs reprises ces dernières semaines de démissionner si le Royaume-Uni ne va pas vers un hard Brexit. Donc lui, il veut vraiment un hard Brexit, donc la rupture directe, alors que Theresa May, là, se dirige plutôt vers un soft Brexit, puisqu'il y a une période transitoire qui serait prévue, etc., etc. Donc, au niveau interne, c'est un peu compliqué pour Theresa May, et elle est aussi, du coup, très isolée au niveau de l'Union européenne, puisque les autres chefs d'État n'ont pas forcément... envie de discuter avec elle, quoi. Puisque, voilà. Donc, très compliqué pour Theresa May. Donc, c'est quoi la prochaine échéance électorale britannique? Alors, niveau local, je sais pas, mais en tout cas, du coup, les prochaines élections législatives au Royaume-Uni sont dans 5 ans, parce que les dernières ont lieu en juin. Voilà. Mais qui d'autre le ferait, comme tu le dis, ce bon Boris Johnson a lui-même refusé le poste? Non. Effectivement, Boris Johnson a refusé de devenir Premier ministre à la suite de la démission de David Cameron, à la suite des résultats du référendum. Et Theresa May a été la seule à vouloir se lancer. Et donc, c'est la seule qui a décidé de gérer ça. Et voilà. Mais sauf que ça, les conservateurs sont pas hyper en soutien avec Theresa May. Voilà, le point interne, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah oui, comment vont être partagés les sièges anglais? Alors le gros gag, c'est une bonne question, on ne sait pas encore pour l'instant. Normalement, à l'heure actuelle, il y a deux solutions. Le Royaume-Uni a 73 sièges, soit ces 73 sièges sont redispatchés entre les autres États membres. Première solution, la plus simple. Ou sinon, on fait de ces 73 sièges une possibilité pour des listes transnationales, c'est ce qu'a notamment défendu Emmanuel Macron, et il n'est pas le seul dans l'Union Européenne à défendre cette vision-là. Liste transnationale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les électeurs européens voteraient tous pour une même liste, et que ce ne serait pas par nationalité, mais une liste où il y aurait du coup à la fois des Français, des Polonais, des Espagnols, etc., etc. Et elle ne serait pas reliée à un pays, elle serait européenne. Voilà. Alors que à l'heure d'aujourd'hui, quand vous élisez, enfin quand vous avez les élections européennes, vous votez au national. Voilà. Voilà, voilà. C'est une bonne question, veut dire je ne vais pas te répondre. Mais c'est pas vrai, c'est juste qu'il y a des questions qui sont très bien, mais sauf que sur le Brexit, c'est très difficile de vous donner des réponses exactes, puisque même les négociateurs que vous voyez ne sont pas suffisamment précis et ne savent pas vraiment vers quoi ils se dirigent. C'est assez flou, comme qui dirait. Maintenant, je vous propose d'écouter notre fameux Michel Barnier, qui est français, qui a été ancien ministre, qui a été aussi ancien commissaire et qui du coup est le négociateur en chef pour la commission pour le Brexit, et il a été du coup mandaté par les États membres. On écoute.
Thank you, David, and good afternoon.
Et donc il parle anglais.
The Prime Minister's speech.
À plus. Tu peux t'as
le
mis la
de ouais, la merci. Première ministre
merci
à
la
Florence
régie.
A déclenché une nouvelle dynamique dans nos négociations. Nous l'avons ressenti lors des négociations de cette
Alors,
semaine.
Alors le mix chemise-cravate, bof.
Comme
hein.
David l'a dit lui-même il y a quelques instants. Lundi, j'avais dit que nous avions besoin d'un moment de clarté. David et moi-même, ainsi que nos équipes, nous avons bien travaillé ensemble. Et je voudrais d'ailleurs remercier nos deux équipes pour leur engagement, leur professionnalisme, et leur expertise.
Voilà, donc Michel Barnier qui commence son discours en disant que oui, effectivement,
nous avons réussi à apporter de la clarté sur certaines
et
questions.
Et que le Royaume-Uni semble plus
pour d'autres,
à
toutefois,
être clair
davantage
sur
de
ses
travail
positions.
Doit être réalisé. Et nous n'y sommes pas encore.
Voilà, il y a encore beaucoup de boulot. D'ailleurs, pendant l'été, Michel Barnier a dit qu'il était inquiet et qu'il était prêt à accélérer le rythme des négociations parce que ça n'allait pas suffisamment
jusqu'à
vite.
Ce que nous arrivions
et que là, en décembre, ils
n'ont
pas fini de négocier les modalités
d'un
de sortie.
Retrait en bon ordre du Royaume-Uni.
En sachant qu'il y a 2 ans pour
Permettez-moi,
négocier,
en ce qui
parce que dans 2 ans, sinon ils sortent. Et sans accord.
De décrire ce qui a fait l'objet d'un accord cette semaine et ce qui doit encore être réalisé. Pour les droits des citoyens, notre priorité, le Royaume-Uni a confirmé l'applicabilité directe de l'accord de retrait. C'est très important. Cela va fournir les assurances à nos citoyens selon lesquelles ils pourront faire valoir leurs droits tels que définis dans l'accord de retrait devant les tribunaux britanniques. Nous sommes tombés d'accord pour garantir pour les citoyens concernés le fait que le Royaume-Uni appliquera les concepts de droit de l'Union européenne de façon cohérente avec le droit de l'Union européenne après le Brexit. Mais nous ne sommes pas parvenus à nous mettre d'accord sur le fait que la Cour de justice devra jouer un rôle indispensable.
Voilà. Donc Michel Barnier, qui représente l'Union
cohérence.
Européenne et les États membres, le dit très clairement, la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, aura un rôle dans ces négociations.
Premièrement,
contrairement à ce que souhaite.
Un écart important persiste en ce qui concerne nos positions sur le regroupement familial. Nous voulons que les droits existants continuent d'être pour les citoyens concernés. Deuxièmement, l'exportation des allocations de sécurité, des prestations de sécurité sociale doit être discutée. Les citoyens ont besoin de procédures simplifiées, de procédures administratives simplifiées. Et le Royaume-Uni a expliqué qu'ils avaient l'intention de mettre en place un système rationalisé. Et David, nous attendons d'entendre justement de votre bouche les détails de ce nouveau système. Concernant le règlement financier, un groupe d'experts à mener des discussions détaillées sur les aspects techniques. Et ces discussions se sont révélées utiles. La première ministre a dit 2 choses à Florence. Tout d'abord, qu'aucun État membre ne devrait payer plus et aucun État membre ne devrait recevoir moins suite au Brexit. Deuxièmement, le Royaume-Uni honorera les engagements pris dans le cadre de son adhésion. pendant la durée de son adhésion. L'équipe de négociation de cette semaine a dit clairement.
Ça, c'est intéressant. Pendant la durée de son adhésion, peut-être que le Royaume-Uni va tenter de dire que
cela limiterait les choses à 2019 et 2020.
Toutes les choses sur lesquelles elle se serait engagée après 2019, ça comptera jusqu'à 2019 et les autres.
Qu'il n'était pas à même encore d'identifier les engagements pris pendant la durée de leur adhésion. Pour l'Union, la seule façon d'arriver à dire qu'il y a eu suffisamment de progrès, c'est de faire en sorte que tous les engagements pris à 28 soient honorés à 28.
Il est ferme là-dessus. Hein.
Pour l'Irlande, nous avons mené une discussion constructive et nous avons progressé dans certains domaines. Pour certaines questions, comme vient de le dire David,
ce que j'aime bien, c'est la différence de discours entre les deux, c'est que pour David Davis, il y a eu vraiment des progrès. Pour Michel Barnier, il y a eu des progrès
toute
dans certains domaines.
Devra s'inspirer, tenir compte des circonstances spéciales de l'île d'Irlande. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, de telles solutions doivent respecter à la fois l'intégrité de l'ordre du marché unique européen et de l'ordre juridique de l'Union, ainsi que l'accord du Vendredi Saint dans toute son intégralité.
Accord de Vendredi Saint, vous savez, c'est les accords de
Belfast
de 98.
Nous confirmons également notre engagement pour maintenir la zone commune de voyage et de commencer à rédiger les principes communs. Mesdames et messieurs, nous avons eu une semaine constructive, oui, mais nous n'y sommes pas encore pour pouvoir parler de progrès suffisants. Il est nécessaire de poursuivre les travaux au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Dans 3 semaines, à partir de compter d'aujourd'hui, le Conseil européen d'octobre me donnera la possibilité de parler de ces négociations avec le président Juncker, avec le président Tusk et les 27 chefs d'État et de gouvernement. Et je me réjouis également la semaine prochaine de la résolution du Parlement européen qui est important.
Oui, alors d'ailleurs, ça, si vous avez envie qu'on commente le débat sur le Brexit au Parlement européen qui aura lieu la semaine prochaine, n'hésitez pas à me le dire.
Continuera.
Je vais répondre à vos questions une fois qu'il aura fini, vous en faites pas.
Restons
vous pouvez du coup
là,
toutes les mettre et je réponds après.
Et nous reprendrons nos travaux, nous reprendrons le 9 octobre, là, où nous nous sommes arrêtés cette
semaine. Voilà, c'est bien, il coupe sec. Hein. Ouais, alors, du coup, donc là, c'était Michel Barnier, donc qui est le négociateur en chef du Brexit pour la Commission. Alors, il a été choisi, en fait, autant par la Commission et par, du coup, Jean-Claude Juncker, son président, mais aussi les États membres ont donné leur avis, évidemment. Et pourquoi Michel Barnier? Parce que Michel Barnier est quelqu'un de très respecté au Royaume-Uni. C'est un homme politique qui est respecté là-bas. Donc du coup, ça facilite un petit peu le dialogue, basiquement. Et qu'en plus, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien en matière en question européenne, puisqu'il a été notamment ministre des affaires européennes en France, il a été commissaire européen au temps du marché intérieur, donc pour les négociations sur le Brexit, avoir été commissaire du marché intérieur, ça aide pas mal, surtout que le Brexit, les négociations vont beaucoup tourner autour du marché intérieur, donc voilà. Ça répond à la question sur pourquoi ils l'ont choisi de Che, donc voilà. Ensuite, il y avait une question, c'est qui Davis? Alors, David Davis était le monsieur qui a parlé en premier, c'est le secrétaire d'État chargé du Brexit au sein du gouvernement britannique. Donc c'est lui qui gère pour le gouvernement britannique et du coup le Royaume-Uni les négociations. Donc les rencontres se font une semaine tous les mois, une fois par mois pendant une semaine. Et donc ces négociations ont lieu entre David Davis et Michel Barnier et leurs équipes où pendant une semaine ils sont ensemble et ils discutent. Et ils essayent de trouver des accords, ce qui n'est pas évidemment très facile. Alors, du point de vue de l'UE, qui décidera si l'accord nous va? La Commission. Alors, Deji, Je t'explique comment ça se passe. En fait, c'est la... les États membres ont décidé de mandater la Commission pour qu'elle fasse les négociations. Pourquoi ils ont décidé que ce soit la Commission qui le fasse? De une, parce qu'ils n'ont pas envie de le faire et que ça les saoule. Et de deux, c'est parce que la Commission a tous les services pour pouvoir gérer de telles négociations. Il y a plein de fonctionnaires qui sont sur des secteurs qui touchent du coup toutes les questions européennes, et donc du coup ils sont vraiment blindés, et donc c'est eux qui ont, qui ont peut-être les services plus qualifiés pour pouvoir gérer ce Brexit. Donc c'est les États membres qui ont décidé cela. Mais les États membres ont décidé des lignes rouges. Ils ont du coup fait une fiche à la Commission avec toutes leurs lignes rouges et leurs positions et leurs orientations sur le Brexit. Et en fait, la Commission doit respecter ces orientations. Elle est mandatée. Elle doit rester calée dans ce mandat. Elle ne peut pas aller outre ce mandat et elle ne peut pas faire moins non plus. Voilà. Donc ça, les États membres sont extrêmement vigilants. Ils sont derrière et donc la Commission ne fait pas non plus ce qu'elle veut. Ça, c'est important. Ensuite, ces négociations vont durer 2 ans, maximum. Un minimum, enfin il n'y a pas de minimum, donc on estime par exemple que si les négociations sont finies en janvier, et ben, le Royaume-Uni peut partir à partir du mois de janvier parce que les négociations sont finies. Or, vu l'ampleur de la chose, vu que ça fait 40 ans... Oh, merci pour le don de 10 euros pour payer une nouvelle cravate à Michou. Merci Tché, c'est super sympa. Ouais, on va lui payer une nouvelle cravate, c'est vrai qu'elle n'était pas terrible celle-là. Bref, je reviens à... et encore vraiment merci beaucoup pour ton don sur je ne sais plus où j'en étais. Merci. J'en étais où, la régie de moi. Ouais non, sur le mandat oui de la commission. Donc voilà, donc les États membres surveillent et ensuite donc ces négociations durent 2 ans maximum et au bout de 2 ans soit il y a accord soit il y a pas accord. Mais qui valide l'accord puisque la question a été posée? Eh bien c'est le Parlement européen qui va approuver ou non l'accord. En fait si vous voulez c'est que la Commission le fait au nom du Conseil européen. Le Conseil européen, c'est les chefs d'État et de gouvernement. Ensuite, la Commission va pondre son accord. Le Conseil européen va bien sûr devoir être d'accord. Mais c'est le Parlement européen qui a le dernier mot. Et c'est lui qui va dire si oui ou non, il est OK. Et il faut aussi savoir que, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, mais il me semble que le Royaume-Uni va aussi, enfin le Parlement britannique va également devoir valider l'accord. Voilà comment ça se passe. Donc c'est pas ratifié par les États membres, ça va être ratifié par le Parlement européen. Et il n'y aura pas de ratification par les parlements nationaux. Si je dis pas de bêtises. Mais normalement c'est ça. Mais je pense que les parlements nationaux doivent être tenus au courant. Bah écoutez, je vais sortir l'article 50. On va lire ça ensemble. Parce que là, je mets article 50. Devinez le premier site sur lequel je tombe. L'UPR évidemment. Alors, moi j'aimerais plutôt le traité en fait. Le TUE, comme on dit dans le jargon. Encore l'UPR ? Stop ! Alors. Ok, merci Jen, c'était clair et limpide. Cool, merci, je suis contente si c'est cool. Et donc j'ai vu aussi que vous voulez qu'on commente le Parlement européen la semaine prochaine, donc oui, il a été ministre de l'agriculture aussi, donc grosse partie de l'UE, oui, il a été aussi commissaire sur la politique de cohésion, je crois qu'il a été ministre sur l'environnement, enfin bref, il a un CV de folie, donc pour gérer les négociations, c'est plutôt un bon choix, on va dire. Il est vraiment pas remis en question. Donc, l'article 50, qu'est-ce qu'il dit? Ah mais non, mais là, il m'a mis un... Ouais, bon, je vais vous lire ça comme ça, c'est très bien. La clause de retrait, comme on l'appelle. Donc, un pays de l'Union européenne qui souhaite se retirer doit informer le Conseil européen. Conseil européen, je vous rappelle, État membre. De son intention, le Conseil, c'est le Conseil des ministres de l'Union européenne, donc ça constitue, c'est constitué des ministres européens. Donc par exemple, on parle d'un sujet environnement, et bien c'est les ministres écologie environnement qui vont se pointer. Donc le Conseil doit ensuite proposer des orientations vers la conclusion d'un accord sur les modalités de retrait du dit pays. Ah, ça bosse tout ensemble. Hein. Cet accord est conclu au nom de l'UE par le Conseil. Donc toujours cette même organisation qui vote du coup sur l'accord en disant si oui ou non c'est cool. Alors, majorité qualifiée, c'est pas l'unanimité au niveau du Conseil, c'est vraiment la majorité qualifiée. Majorité qualifiée, qu'est-ce que c'est? C'est que ça doit être 55% des États membres représentant 65% de la population européenne. Et ensuite, il faut avoir obtenu également la validation du Parlement européen. Donc le Parlement européen peut dire non, ça ne convient pas, et dans ce cas-là, bah, c'est un peu YOLO, hein. Le Parlement européen dit non, donc non. Ensuite, les traités de l'Union européenne cessent de s'appliquer aux pays concernés dès la date d'entrée en vigueur de l'accord. Oh purée ! Jean Massier, le bonheur de regarder Acropolis depuis chez moi, bisous Jen. Jean Massier, il fait un petit don. Merci monsieur Massier, ça me fait bien plaisir. J'espère que ça va et tu devrais dormir parce que t'es fatigué. Il est 22h, donc fais dodo Jean. Sinon tu vas être crevé demain matin. Merci beaucoup Jean, merci de donner ton argent pour Acropolis. C'est cool. Il est au chômage le pauvre, il faut qu'il arrête de faire ça. Alors, les traités de l'UE cessent de s'appliquer aux pays concernés dès la date d'entrée en vigueur de l'accord ou dans les 2 ans à dater de la notification de retrait, 30 mars 2019. Et le Conseil peut décider de prolonger cette période, mais ça se fait à l'unanimité avec l'accord de l'État qui veut sortir. Et ensuite, tout pays qui s'est retiré de l'Union européenne et qui doit introduire une nouvelle demande d'adhésion, donc doit reprendre la procédure comme un État lambda, on s'en fout qu'il ait été membre de l'Union européenne, il fut un temps, il ne recommençait comme tous les petits copains qui veulent rentrer. Voilà! J'espère avoir été claire sur l'article 50. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va écouter les questions-réponses des journalistes et de nos deux magnifiques intervenants. C'est parti.
We have time now for 4 questions, and I will start with Ben.
Allez Ben, vas-y.
Thank you very much, Ben Wright from the BBC. Two questions, if I may. David Davis, your tone today is clearly more optimistic. There's a warmer atmosphere in here, but there are obviously big stumbling blocks, in particular the role of the ECJ.
L'atmosphère est beaucoup plus chaleureuse ici dans la salle, mais il y a quand même des tirs d'achoppement, notamment sur le rôle de la Cour de justice pour les droits des citoyens et la question
et le gros gag,
quand même
si on voit
essentielle
tes
des finances. L'Union européenne veut un engagement plus clair. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une bonne négociation ou est-ce que vous avez le sentiment que vous devez
allez, encore un petit bon de Massier, t'es pas ma maman, je me couche
que l'Union européenne vous impose. Et oh monsieur Barnier, si je puis me permettre, est-ce que vous pouvez définir un peu plus avant pour nous
et qu'est-ce qui va se plaindre de tes siestes? Après, bah c'est
quand même une formulation très.
Et arrête de pourrir mon stream avec tes dons.
Que vous avez une interprétation très restrictive de votre mandat.
Espèce
qui,
de chômeur,
va. Ces négociations.
T'as pas honte de faire ça avec l'argent du contribuable?
Parfois, vos questions me font un peu sourire, je dois dire. Oui, c'est une négociation, évidemment, que c'est une négociation en bonne et due forme. Nous sommes venus avec une centaine de négociateurs. Aujourd'hui, nous allons publier un tableau qui a été mis à jour sur les droits des citoyens qui montre qu'il y a des résultats très concrets à nos échanges. Et vous regarderez ce tableau, aujourd'hui il est vert, beaucoup de ces cases sont vertes, et pour toutes ces cases, nous allons avoir quelque chose qui va aider les 3 millions
ah,
de ressortissants européens vivant au Royaume-Uni et
bah,
les millions
coup,
de
si
ressortissants
c'est toi qui
britanniques
le don,
qui vivent dans
bah,
l'Union européenne. Ça aura un impact pour eux. C'est la même chose pour l'Irlande du Nord. Ce n'est pas du tout un processus à sens unique que le nôtre, que celui de nos négociations. Et j'espère qu'à l'avenir, nous pourrons avancer encore plus. Par exemple, nous avons beaucoup progressé sur la question de la phase de transition. J'espère que nous pourrons beaucoup avancé là-dessus, mais bon, ce n'est pas encore le temps venu.
Les citoyens britanniques, dans leur majorité, ont décidé souverainement de quitter l'Union européenne.
Barnier, il le rappelle à chaque
le
fois.
Le gouvernement ça. Britannique a, de son côté, confirmé qu'il souhaitait aussi quitter le marché unique et l'union douanière, qui accompagne évidemment le marché unique. Ce sont des décisions lourdes, graves, et comme l'a dit David tout à l'heure, avec des conséquences complexes dans tous les domaines humains, social, juridique, financier, économique, technique. Donc,
c'est quoi ta question,
ne vous étonnez
gag?
Pas que ces rounds qui sont tous utiles, parfois avec plus de points de résistance ou parfois des déceptions, des avancées.
Frexit,
nous avons eu un certain nombre
oui, demande
de
à
clarifications importantes cette semaine, que tout ça se déroule avec le temps nécessaire. Et pour ce qui me concerne, je veux rappeler que nous ne sommes pas dans une négociation habituelle pour la Commission européenne. Nous n'avons pas de texte ou de directive à défendre. Je suis le négociateur ici à la Commission, avec la confiance des 27 gouvernements, des chefs d'État et de gouvernement et du Parlement européen. Et je veille simplement à trouver les voies et moyens de ce retrait ordonné, c'est-à-dire un accord avec le Royaume-Uni au moment où il sort, ce qui me paraît bien meilleur que de sortir sans accord, en protégeant les intérêts des 27.
Ah, peut-on être député européen et français, c'est ça ta question?
Et bien contribuables européens.
Interdiction de cumuler ces deux mandats, c'est soit l'un, soit l'autre.
Décision prise.
C'est pour ça qu'il y a certains députés européens français qui ont été élus pendant les législatives et qui du coup ont abandonné leur siège au Parlement européen. Je pense notamment à Mélenchon, à Marine Le Pen, à Constance Le Grip.
Les 27 pour
qui sont les trois exemples que j'ai en tête là tout de suite.
Et encore une fois, comme l'a dit David et comme je l'ai dit moi-même, je trouve positif que le discours de Theresa May ait permis de débloquer une situation et de donner une nouvelle dynamique à cette négociation. Mais nous
voilà, donc Michel Barnier qui dit que, quand même, il salue le fait que, depuis le discours de Theresa May la semaine dernière, les négociations ont pris une nouvelle tournure
et ça s'améliore. Les principes de ce retrait ordonné.
Constance Le Grip, qui est une députée maintenant française à l'Assemblée nationale, du coup, elle est LR.
Bruno Waterfield, Times. Of London.
Tout d'abord pour M. Davis. Alors cet accord pour les ressortissants européens au Royaume-Uni avec les répercussions et l'amendement au Parlement, avec ces concepts, avez-vous dit, de droit européen qui continueront d'être visibles et de s'appliquer au Royaume-Uni, c'est comme
c'est marrant,
si
la journaliste a continué, j'ai l'impression qu'elle pleure.
L'acte de 1972, l'acte législatif de 1972 voilà, continue d'être. Alors nous voyons ici, d'après le budget de 2016, un passif ici énorme avec tous les milliards qui sont concernés. Donc pouvez-vous nous dire quelle partie de ces engagements sera honorée? Et Monsieur Barnier, le 9 octobre, le Royaume-Uni fera de nouvelles propositions concrètes
des
dans
propositions
ces
concrètes
domaines.
C'est vrai,
si,
ça existe.
Dans une certaine mesure, cela pouvait répondre à vos préoccupations. Demanderez-vous au sommet d'ajuster votre mandat pour pouvoir vous pencher sur les détails de cette période de transition?
Voilà, donc en fait, là, Michel Barnier n'a pas de mandat pour négocier les relations futures et donc la période de transition. Et donc, avec le Conseil européen qui aura lieu du coup en octobre, le mandat de Barnier pourrait évoluer si les négociations ont suffisamment évolué pour permettre cette obtention de mandat.
Et c'est ce que nous pouvons fournir.
Vous voyez, les États membres ont très bien réfléchi, c'est qu'en gros, on ne donne pas à la Commission et donc à Michel Barnier le mandat de négocier les relations futures tant qu'on n'a pas suffisamment avancé sur les modalités
sur
de sortie.
Nous travaillons. Ce n'est pas inhabituel. Il y a pas mal d'accords pour lesquels nous avons des traités qui confirment ce que fait le Royaume-Uni. C'est très précis, c'est ce que nous faisons là. Quant au fond, nous n'avons pas de négociation en la matière pour l'instant.
J'ai répondu tout à l'heure sur les progrès suffisants. On pourrait rentrer un peu plus dans le détail, mais
selon Donald Tusk, les progrès ne sont pas suffisants. Donald Tusk, c'est le président du Conseil européen.
Rendu public de manière transparente par la Commission et mon équipe, vous y voyez ce que nous attendons sur la protection durable des droits des citoyens.
D'ailleurs, je vais vous ressortir le communiqué de Michel Barnier à la suite
de l'interprétation de ces droits
de Theresa May la semaine dernière. Il est assez piquant.
Sur les engagements financiers ou nous demandons simplement, ni plus ni moins, que les engagements pris à 28 soient respectés à 28.
Ce que j'aime bien avec Barnier, c'est que genre, ça fait vraiment style. Ouais, on demande pas grand chose, nous, on est clair.
Le
on
plus
demande
tôt
ça,
possible.
Et puis c'est tout.
Je pourrais constater, dans ma responsabilité de négociateur, que nous sommes là, sur cette première séquence qui concerne le retrait ordonné. Le plus tôt possible, je recommanderais moi-même, au Conseil européen, de m'engager à ouvrir la deuxième étape qui peut concerner cette demande que le gouvernement britannique, par la voix de Theresa May, a formulée pour la première fois. David m'en avait parlé, et le Premier ministre britannique, pour la première fois, a demandé cette période de transition. Du côté des 27, nous ne sommes pas surpris par cette demande. J'ai ici le document de base qui est issu de mon mandat, et qui précisément décrit les conditions
voilà
dans lesquelles
le communiqué
nous pourrons
de Barnier,
discuter le
et
moment
et alors la phrase la plus piquante, qui résume bien
transition.
Le truc, c'est que
voilà.
Il a dit... Les déclarations de Madame May à ce sujet marquent un pas en avant, mais doivent maintenant être confirmées par des positions de négociation précises du gouvernement britannique. En gros, les gars, faites des efforts sur la précision, parce que là, ça va pas.
Deuxième étape, qui peut avoir un lien, d'ailleurs, avec le retrait ordonné, nous sommes toujours dans le cadre de l'article 50 sur la rédaction, j'espère qu'il commencera bientôt, d'un traité organisant le retrait ordonné du Royaume-Uni. Et clairement, selon le mandat clair que j'ai à respecter, dans ce retrait ordonné, il y a les sujets de la séparation, nous venons d'en parler, et nous progressons, et il y a aussi la possibilité d'une période de transition, courte et encadrée.
Courte, voilà, la période de transition. Alors, du coup, Barnier ne veut
aussi
pas
vite que
de
je pourrais constater des progrès
ans,
réels, pour rendre compte à ceux qui m'ont donné ce mandat, les gouvernements et le Parlement, le plus vite nous pourrons engager les deux autres étapes, en tout cas la deuxième étape.
The next on my list is Simon.
Simon.
Allez, Simon.
Thanks, Simon Taylor from MLEX. Question for...
J'ai une question pour Monsieur Michel Barnier. Monsieur Davis a indiqué lundi que le règlement financier ne pourrait être résolu que plus tard, lorsque l'on aurait clarifié la relation future du Royaume-Uni avec l'Union européenne. Est-ce que vous vous êtes rapproché de cette position ou est-ce qu'on a des chances ou est-ce que c'est encore bloqué l'idée de pouvoir progresser sur cette question?
D'abord, sur le fond, grâce à ces deux phrases que j'ai écoutées attentivement et de manière constructive, comme je l'ai dit avant et après.
Il fait trop rire Barnier.
À Florence, de Theresa May, nous clarifions les choses. C'est important que le Premier ministre britannique dise que pour les années, c'est ce qui m'a été précisé, 2019-2020, les États membres de l'Union n'auront pas à payer plus ou à recevoir moins. Mais nous sommes loin du compte si on ne parle que de ces deux années-là. Et donc je dis simplement que s'agissant de la deuxième phrase, qui est également importante, la reconnaissance des engagements pris par le Royaume-Uni durant la période où il a été membre de l'Union jusqu'au jour du retrait, tous les engagements, nous disons simplement que tous ces engagements pris ensemble, de manière mutualisée, à 28, devront être respectés à 28.
C'est genre, il n'y a pas plus clair que ça, quoi. On a fait les choses à 28,
j'espère que
et
nous
bah, on finit à 28.
Clarifier ce point.
C'est
et
énormissime,
obtenir,
quoi.
Un engagement clair sur ce point qui est la traduction de ce que j'appelle un progrès suffisant.
Il me fait penser un peu à Justin Trudeau quand on lui pose mille fois la même question et qu'il répond toujours la même chose.
Des citoyens,
mais Barnier, il est un peu moins,
les frontières,
un peu moins arrogant que...
Je dis bien indissociable.
Que Justin Trudeau, mais bon, c'est un peu le même style, quoi.
Pour le reste, objectivement, je ne vois aucun lien logique et cohérent entre la discussion que nous ouvrirons le plus tôt possible, je l'espère, et qui doit être ambitieuse sur le futur partenariat, ce que j'ai appelé un jour le New Partnership, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, dans beaucoup de domaines, le commerce, coopération en matière de sécurité, de défense, de lutte contre le terrorisme, peut-être d'autres domaines.
Il va bien, monsieur Juncker.
Ça, c'est une discussion pour l'avenir. Il n'y a aucun lien possible de notre point
on
de vue.
Envoie lui un mail.
Il n'y a aucun lien possible entre cette discussion-là et le règlement des sujets de la séparation et le solde des questions passées. Aucun lien.
The last question goes to
Gargi.
Thanks, Alexandra. I was afraid that you're...
Je craignais de vous voir donner la parole uniquement à des journalistes britanniques. Je travaille pour la
bah tiens, ça répond à ta
J'ai
question.
J'ai une question sur les citoyens, mais un petit peu en marge. Après un Brexit ordonné, est-ce que le Royaume-Uni sera libre d'imposer des visas pour les Polonais, les Bulgares, les Roumains et peut-être quelques autres ressortissants d'autres pays? Ou bien y a-t-il un engagement à ne pas le faire? Est-ce qu'un tel engagement ferait partie du deal? Sinon, je ne pourrais peut-être pas poser de questions de suivi si cela ne fait pas partie de la discussion. Mais alors pourquoi plusieurs pays sont intéressés par cette question et sont gravement préoccupés d'ailleurs? C'est une question importante. Nous serons bien sûr libres, puisque nous ne serons plus membres, d'organiser notre politique de migration comme bon nous semble. Mais.
Ouais, mais alors, il y a les questions sur les citoyens britanniques.
Cela ne vous empêchera pas, citoyens de l'Union, de venir travailler au Royaume-Uni. Cette liberté existera.
Allez, comment tu réponds pas du tout à la question?
Cette question s'adressait plutôt à David qu'à moi, hein.
Et Marnie qui botte en touche aussi.
Mais nous discutons objectivement de tous les sujets où la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union crée une incertitude générale. Et nous avons pris tous ces sujets. David a parlé des 14 documents que le Royaume-Uni a publiés. Nous-mêmes, nous avons publié 14 documents sur tous ces sujets où il y a de l'incertitude. Et la première priorité, c'est en effet celle des citoyens. Et nous voulons sécuriser les droits réciproquement de ces citoyens sur la base de la non-discrimination, de la continuité de ces droits acquis jusqu'au jour du Brexit et des droits qui sont acquis par des familles, bon, est important, cette sécurité valant pour la durée de leur vie. Et nous parlons des droits qui auront été acquis jusqu'au jour du Brexit, parce que ce jour-là, monsieur, le 29 mars ou le 30 mars 2019 à minuit, le Royaume-Uni devient un pays tiers dans tous les domaines. Donc après,
c'est chaud quand même. Quand
comme
il
vous
dit
le savez,
je sais pas
on a dit
vous,
le plus tôt possible
il y a
cette idée
de l'ampleur de
cet objectif,
de la chose,
travailler quoi. Entre nous un partenariat sur notre future relation, que j'espère forte dans beaucoup de domaines et dans cette discussion-là, sur l'avenir, on peut toujours discuter des sujets d'immigration, de conditions pour les citoyens de part et d'autre, mais c'est un sujet qui concerne l'avenir de notre relation avec un pays devenu tiers. C'est une autre question juridique. Hein. Voilà ce que je veux dire.
Voilà, ça c'est important, c'est que c'est vrai que maintenant que le Royaume-Uni va devenir un État
nous en avons terminé dans notre conférence
tiers,
de presse, la conférence de midi va commencer
bien,
dans 5 minutes.
Tout va changer et il est quasiment impossible, merci Tom, il est quasiment impossible pour les citoyens et les ressortissants, qu'ils soient britanniques ou européens, d'avoir les mêmes droits qu'à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je voulais dire, mais impossible quoi. Il y aura forcément des choses qui seront pas du tout comme avant, quoi. Donc il y a des choses qui vont changer. Et là, Barnier, il appuie vraiment là-dessus. Hein. C'est vrai que ça va vraiment beaucoup changer de choses. Tu vois que Barnier se veut intransigeant à rappeler 12 fois que le Royaume-Uni sera un pays tiers. Effectivement, c'est vrai que l'Union européenne, par la voix de Michel Barnier, montre très bien depuis le début des négociations que l'Union européenne et les États membres sont unis sur la question et qu'ils seront intransigeants et que le Royaume-Uni aura beau essayer tout ce qu'ils veulent, ils auront du mal à faire bouger la position de l'Union européenne. Et en fait, ce que ça démontre aussi, c'est que dans des négociations, un État face à 27 autres, il est quand même un peu en position de faiblesse. Il n'y a pas à dire, là, le Royaume-Uni, dans une négociation, et ce n'est pas que le Royaume-Uni face à l'Union européenne, mais dans tout type de négociation, moins vous êtes nombreux, plus vous êtes faibles dans les négociations, en règle générale. Et là, c'est vraiment démontré avec ce qui se passe avec le Royaume-Uni, surtout que l'Union européenne reproche beaucoup au Royaume-Uni leur position peu claire sur pas mal de sujets. Je vous redonne, je vous redirige vers le communiqué de presse que je vous ai mis dans le chat pendant que Barnier parlait, mais par exemple... Sur l'Irlande, Michel Barnier déclare que le discours de Theresa May du 22 septembre n'apporte pas de clarification quant à la manière dont il entend le Royaume-Uni assumer ses responsabilités qui découlent de son retrait de l'Union européenne. Voilà, donc vous voyez, l'Union européenne adopte un peu un ton assez dur vis-à-vis du Royaume-Uni en estimant que le Royaume-Uni est responsable de ses choix. Et qu'à un moment donné, le Royaume-Uni va devoir aussi les assumer et devoir présenter des positions qui tiennent la route et aussi avancer des solutions sur des sujets qu'ils modifient totalement du fait de leur choix. Voilà. Il y avait des questions, il me semble, oui. Donc, Juncker, il va bien, on avait déjà répondu. Les journalistes anglais, on a répondu. Il y avait une question tout à l'heure sur la City et la question un peu financière, tout ça, enfin sur la City. Et je ne crois pas que la question de la City a été traitée dans les négociations, puisque comme je vous l'ai dit, les négociations pour l'instant tournent autour de peu de sujets, mais très importants. Le sort des ressortissants britanniques dans l'Union européenne et des ressortissants européens dans l'Union, dans le Royaume-Uni, pardon, sur la question de la frontière irlandaise entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, sur la question des engagements financiers du Royaume-Uni et puis sur la CJUE, quel sera le rôle de la CJUE dans les négociations. Voilà, en gros. Donc voilà, donc ça c'était la conférence de presse, je ne sais pas ce que vous en avez pensé d'un côté de David Davis et d'un côté de Michel Barnier. Est-ce que vous avez l'impression que le Royaume-Uni est un peu comme qui dirait dans la merde, ou si ça va? Est-ce que vous pensez que l'Union Européenne est beaucoup trop sévère à l'égard du Royaume-Uni, ou est-ce que vous trouvez qu'elle s'en sort plutôt bien? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez par la suite? Notamment, est-ce qu'il y a des sujets que vous voudriez voir apporter des réponses très claires de la part des négociateurs, que ce soit de l'un ou de l'autre côté? Enfin bref, tout ça, tout ça. Moi, sinon, j'étais très contente de commenter ça avec vous. Je suis désolée pour ce soir, je suis un peu crevée, donc du coup... Je suis pas très claire dans ce que je dis, j'ai l'impression. Et puis j'ai un peu fait en mode YOLO. Hein. C'est vendredi, c'est comme ça. Désolée. En plus, je suis encore un peu malade, c'est chiant. Bref. Et donc, je commenterai le Parlement européen et le débat qu'il y aura eu sur le Brexit qui a lieu la semaine prochaine. Il va y avoir une résolution qui va être votée sur le Brexit. Je veux juste que l'UE disparaisse, donc ça va être rapide. Comme réponse. Merci Ilric. Effectivement, réponse rapide. Alors, j'avais une petite question. J'ai une question générale. Est-ce que tu comprends qu'on puisse être européen dans le sens internationaliste du terme, mais qu'on s'oppose à l'UE en tant qu'institution avec ce qu'elle porte? Oui, je le conçois totalement. Et oui, il y a des gens qui sont anti-UE, mais pas anti-Europe. Par exemple, Marine Le Pen, elle est anti-Union européenne dans dans le sens des institutions européennes, qu'elle conchit, dirons-nous de manière un peu moins polie. Mais voilà, Marine Le Pen est totalement anti-Union européenne dans le sens des institutions et sur la question fédéraliste. Mais par contre, elle est européenne puisqu'elle est pour une Europe des nations, où les nations pourraient être en partenariat sur certains sujets, mais en gardant leur totale souveraineté au niveau national. Donc pour moi, Marine Le Pen n'est pas anti-Europe, elle est anti-Union européenne. Donc oui, tout à fait. Et voilà, non, mais il y a des... Je comprends tout à fait ce point de vue, c'est un point de vue comme un autre. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Alors, attends, non, il y a Goyon qui dit... Je fais peut-être un hors-sujet, mais ça me rappelle le sort de l'Allemagne post-Première Guerre mondiale. Le divorce ne peut pas être que le fait et la faute du Royaume-Uni. Il va falloir faire des concessions ou ça va mal finir ces histoires. Hors-sujet fini, bah c'est pas tellement un hors-sujet, en fait. Oui, ça peut mal finir, mais je pense que des deux côtés, il y a une envie de trouver une solution qui convient un peu à tout le monde, parce que sinon, ça va être horrible. Pourquoi on dit toujours Europe pour parler de l'UE? Ce raccourci amène à des confusions entre ces deux notions. Oui, effectivement. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais Europe, c'est le mot générique, et Union Européenne, c'est vrai que c'est plus spécifique. Mais voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De plus, le Royaume-Uni n'a jamais joué le jeu complètement. Sans eux, ça se passera mieux, je pense. Titan possible, notamment sur la question par exemple de l'Europe de la défense, qui était beaucoup bloquée par le Royaume-Uni, entre autres questions, et on a toujours dit, c'est quelque chose qui a toujours été dit, que le Royaume-Uni avait toujours un pied dedans et un pied dehors, puisque par exemple il ne voulait pas être dans la zone euro, pas dans la zone Schengen, qui n'avait pas envie de faire de la coopération judiciaire, etc., etc. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui estiment que le Royaume-Uni sorti, ça permettra à l'Union Européenne d'avancer, et pour l'instant, c'est pas, comment dirais-je, réfuté comme thèse. Voilà, allez, je vais vous laisser sur ce. Merci d'avoir suivi, merci encore à tous les dons qui ont été faits ce soir, c'est très gentil à vous. Merci d'avoir été là un vendredi soir, hein. on va pas se mentir, c'est vendredi et vous êtes avec moi, donc ça me fait bien plaisir qu'on ait partagé ensemble notre manque de vie sociale. La régie vous salue et moi je salue la régie qui a été très sympa de faire ce live ce soir. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit, je vous fais des bisous et puis bah à très vite du coup la semaine prochaine très certainement. Allez, salut.
Bien entendu, on peut chauffer sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. L'Europe, l'Europe, l'Europe.